Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Cette semaine se tenait à l'université Paris-Dauphine le 5e congrès mondial de l'enseignement du journalisme. J'en ai profité pour rencontrer Cousson Traoré-Salle. Elle dirige le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, qui forme au journalisme à Dakar des jeunes venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Dans la deuxième partie de l'émission, on discutera journalisme de données avec la Tunisienne Noura Belaïd. Elle est directrice des études de l'Université centrale de Tunis.
Atelier@rfi.fr.
Je m'appelle Cousson Traoré-Salle, la directrice du CESTI.
Alors le CESTI, c'est la plus vieille école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Combien d'étudiants journalistes sont sortis de votre école?
Le CESTI est... Une vieille école de journalisme située en Afrique de l'Ouest. Elle a été créée, cette école, en 1965 avec l'appui de l'UNESCO et des coopérations françaises et canadiennes. Depuis sa création, en 1965, le CESTI a formé 1222 journalistes, dont 619 Sénégalais et 603 non-Sénégalais. Nous sommes une école panafricaine qui regroupe plusieurs nationalités. Actuellement, nous avons une dizaine de nationalités au CESTI, à tous les niveaux de la formation. Une école dont la vocation première est de former des journalistes.
Alors, vous formez au journalisme, mais aussi à la communication.
Parfaitement. Nous sommes ouverts à la communication. D'ailleurs, le diplôme que nous délivrons à nos étudiants sorti du CESTI s'intitule depuis 2010 « Diplôme spécialisé en journalisme et communication ». Nous avons voulu offrir à nos étudiants des opportunités en communication parce que c'est un domaine qui est en pleine mutation dans notre pays et que la formation en communication démarre plutôt à partir du niveau master.
Et alors vos étudiants, quand ils sortent du CESTI, vers quoi se dirigent-ils? Principalement vers le journalisme? Ou alors il n'y a pas assez ou pas encore assez peut-être de débouchés dans le journalisme et donc ils se tournent parfois vers la communication?
Alors les étudiants qui sortent du CESTI sont d'abord des journalistes, mais des journalistes qui sortent avec suffisamment d'outils en communication et dans les autres secteurs de l'information et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils deviennent aussi, comme je l'ai dit hier, des journalistes reporters d'images. Ils sont à la fois des monteurs, des réalisateurs, des caméramans, et vraiment des journalistes bien outillés pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences du métier de nos jours.
Que souhaitent-ils faire les étudiants sénégalais ou non sénégalais qui arrivent au CESTIC? Quel est leur rêve, justement?
Le rêve, c'est de suivre une formation de qualité. Parce qu'il faut le dire, nous avons une formation de qualité orientée spécialement au journalisme, avec des enseignants, des universitaires de différentes spécialités, mais encore avec des professionnels qui ont une certaine expérience dans le métier du journalisme et de la communication. Donc, en sortant du CESTI, est un journaliste professionnel qui a des aptitudes en communication et aussi dans les technologies de l'information et de la communication, qui sait faire un document ou faire une production sans pour autant avoir besoin d'un technicien, d'un monteur ou d'un réalisateur.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la formation du CESTI, c'est les formations en langue locale, en Wolof, en Poular, etc. Pourquoi?
Oui, c'est vrai que depuis 2 années, nous avons repensé la formation au CESTI en intégrant l'enseignement des langues nationales codifiées du Sénégal, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a maintenant une multiplication d'émissions en langue nationale, c'est d'un, mais aussi permettre à nos étudiants d'atteindre une plus large cible, parce qu'effectivement, nous organisons le concours dans 5 pôles régionaux du pays. Nous allons vers les candidats du pays, aussi dans un souci de partager notre expertise et de nous ouvrir plus à la société. Nous avons dit qu'il était temps quand même que des étudiants apprennent les langues nationales pour pouvoir donner les informations en langue nationale d'une façon beaucoup plus professionnelle.
Et ce que vous faites aussi, ce que vous demandez, ce que vous imposez à vos étudiants, c'est d'aller en milieu rural pour faire des semaines en immersion et les sortir de Dakar et des grands milieux urbains.
Oui, le stage pratique est une exigence, c'est une phase obligatoire de la formation des journalistes en deuxième année. On les met en situation, ils sortent de Dakar, ils vont dans une localité du pays. Et c'est pour leur permettre aussi de mieux comprendre les réalités socio-culturelles des localités éloignées du pays. C'est le rôle du journaliste de pouvoir s'adapter à toutes sortes de réalités.
Parce que vous aviez l'impression auparavant peut-être que des jeunes journalistes étaient un petit peu déconnectés de ces réalités, que c'était des jeunes qui venaient peut-être de certains milieux plus favorisés et qui n'étaient pas en phase avec l'ensemble des réalités de la société sénégalaise.
Alors, la spécificité au CESTI, c'est que nous ne recevons pas seulement des journalistes sénégalais. Nous recevons aussi des journalistes d'autres nationalités qui ne connaissent pas du tout les réalités du pays. Donc, c'est toujours une expérience probante de les aider à s'adapter au contexte culturel, social, économique, parfois politique des localités éloignées de Dakar, parce que tout ne se passe pas à Dakar seulement. Donc, et c'est dans ce sens que nous avons vraiment mis l'accent sur cette pédagogie active et qu'après ce séjour pédagogique d'une semaine, ils reviennent à l'école où ils font ce qu'on appelle une session intensive avec des productions quotidiennes dans les différentes spécialités du métier.
Alors, vous dirigez une école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Y a-t-il des spécificités à l'enseignement du journalisme en Afrique de l'Ouest? Vous qui voyagez beaucoup et vous voyez ce que font vos collègues en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on enseigne et des façons de travailler propres à l'Afrique de l'Ouest?
Oui, il y a effectivement des spécificités d'une école à une autre. Chaque école a ses réalités, mais nous nous retrouvons quand même parce que ce sont les mêmes fondamentaux du métier qui sont enseignés aux journalistes. Ce sont ces modules qui aident à renforcer les aptitudes du journaliste à mieux décrypter, à analyser, à collecter, à trier et à véhiculer l'information vraie et vraiment la rendre accessible au public. Mais des innovations sont notées dans les écoles en fonction des besoins de nos journalistes dans nos différents pays.
Et justement, ces journalistes, quand ils sortent d'école, ont-ils des débouchés nécessaires et trouvent-ils du travail rapidement?
Alors, nous, notre mission est non seulement de leur donner une formation de qualité, mais encore de leur donner suffisamment d'outils pour qu'ils soient fonctionnels dès qu'ils sortent du CESTI. C'est vrai que l'insertion professionnelle est un problème dans tous les pays africains, mais le journaliste qui est suffisamment outillé pourra trouver facilement un métier, surtout s'il a certaines compétences qui sont liées à son développement personnel.
Que peut-on souhaiter au CESTI, donc au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, pour le futur?
Alors, pour le futur, nous souhaitons encore rehausser l'image de notre école, parce que c'est vrai que c'est avec fierté que nous le disons. Nous sommes une école de renommée et nous sommes une école ouverte au monde extérieur parce que nous organisons des sessions de formation dans des pays partenaires. Nous organisons le concours chaque année dans certains pays d'Afrique. Nous recevons même des étudiants de la France qui font le concours et qui viennent faire une formation à Dakar. Nous avons aussi initié des formations de renforcement de capacité des journalistes qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ou d'avoir un encadrement professionnel dans le cadre d'un partenariat avec le syndicat des journalistes de Dakar, le comité des éditeurs et diffuseurs de presse et le ministère de la communication. Donc nous sommes une école ouverte au monde extérieur, mais notre souci est de partager notre expertise avec le monde extérieur et nous partageons avec beaucoup de générosité notre expertise. Nous travaillons pour toujours renforcer l'image de notre école à travers la formation que nous donnons, mais aussi nous apportons des innovations majeures dans notre système de formation pour que nos étudiants soient toujours parmi les meilleurs journalistes.
Recevez-vous beaucoup de femmes qui veulent être des journalistes, justement? Est-ce que vous avez une politique volontariste pour avoir plus d'étudiantes?
Ah, c'est une question pertinente en tant que femme. Nous organisons un concours. Et c'est un concours national, d'abord, qui est ouvert aux étudiants qui ont la licence ou le master, mais aussi ouvert aux élèves des lycées sous réserve de l'obtention du bac. Nous organisons un concours vraiment transparent en mettant des anonymats sur les feuilles d'examen et à la délibération. Les membres du comité pédagogique n'ont aucune idée de l'identité des candidats. Nous délibérons dans la plus grande transparence. Et je me rappelle, il y a quelques années, nous avons retenu, après la délibération, une promotion sans femmes. Il n'y avait aucune fille dans la promotion et les étudiants même ont produit un film dans ce sens. Pourquoi il n'y avait pas de femmes ? J'ai dit non, ce qui est plus important, c'est de retenir les meilleurs étudiants. Je souhaiterais qu'il y ait encore des filles qui soient retenues. Mais actuellement, nous avons des filles parce que ils ont aussi un excellent niveau. Hein. Mais comme nous ne décidons pas de leur admission au concours, parce que c'est un problème de genre qui se pose là. Donc c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, aux garçons, aux filles, et nous retenons les meilleurs, que ce soit les filles ou les garçons.
Mais vous ne voulez pas, pour l'instant, avoir une politique volontariste, justement, pour essayer de rééquilibrer la balance et qu'il y ait un petit peu plus de voix pour les femmes dans le journalisme?
Moi, c'est un objectif. Hein. C'est vraiment mon objectif d'ouvrir encore la formation aux filles, en quoi faisant, en allant dans les lycées de filles, c'est vraiment une vision que nous avons, encourager les filles à faire le concours, faire la promotion des journalistes femmes, parce que nous avons d'excellentes journalistes femmes qui font très bien leur travail, même si il y a des contraintes parfois liées à la profession. Il faut dire que les femmes font ce travail avec une bonne conscience professionnelle et tiennent toujours le bon bout.
Merci, Koussan Traoré-Sall.
Je vous remercie.
L'atelier des médias.
En bref, le Parlement français a définitivement adopté cette semaine l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique. Ça fait de la France l'un des premiers pays à imposer le chiffre d'affaires d'une trentaine d'entreprises comme Google, Facebook, Amazon, Apple, Mythic ou encore Airbnb. L'idée, c'est de les obliger légalement à verser à l'État français 3% de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Les États-Unis, où sont installés la plupart des mastodontes du numérique, ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les effets de cette taxe qu'ils jugent inéquitable. Ils envisagent déjà une riposte en imposant par exemple des droits de douane sur les produits français ou autres mesures de rétorsion commerciale. Paris, de son côté, répond qu'il est juste question ici de souveraineté. On retourne au Congrès mondial de l'enseignement du journalisme avec une universitaire tunisienne.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Bonjour, je suis Noa Belaïd de la Tunisie. Je suis enseignante de journalisme, directrice des études donc l'Université centrale de Tunis. En même temps, je suis éditrice de l'Observatoire arabe du journalisme. Et voilà.
Dans l'enseignement actuel du journalisme en Tunisie, est-ce que vous avez l'impression que des choses ont changé ces dernières années ?
Bien évidemment, surtout qu'on a commencé à enseigner le journalisme dans l'école privée en Tunisie, parce que à l'époque l'enseignement du journalisme était limité à une seule école publique. Et après donc la révolution, on a commencé à enseigner le journalisme dans certains établissements universitaires qui avaient d'autres formations. Mais voilà que le contexte donc médiatique et ce contexte de liberté d'expression nous a permis de lancer la formation en journalisme. Et donc dans notre université maintenant, depuis 2011, on a déjà enseigné donc on a lancé plutôt des promotions, pas mal de promotions de journalisme. Et il y a même des étudiants qui sont venus en France faire leur master ou autre. Donc déjà ce contexte médiatique nous a permis de développer des projets d'enseignement. Et sinon, si on parle du contenu, bien évidemment la formation en journalisme diffère de celle avant la révolution, parce que avant la révolution, non seulement il y avait des restrictions par rapport au journalisme, mais par rapport aussi aux enseignants du journalisme. C'est-à-dire on raconte pas tout, on parle pas de tout, même si on le raconte pas en public dans la classe. C'est que voilà, on se connaît, les profs, on sait avec qui on parle, on traite tel sujet ou autre. Et la manière avec laquelle les enseignants passent l'information est différente. Moi, je fais partie de cette génération qui a appris le journalisme avant la Révolution. Je suis celle qui a en fait participé au changement de la manière avec laquelle on enseigne le journalisme. Donc, on accorde plus de liberté à l'étudiant en classe. D'ailleurs, on a fait des formations de pédagogie sur ce sens, comment accorder la liberté d'expression au sein de la classe dans une école de journalisme. Parce que c'est un élément très important, parce que les étudiants, ils ont besoin de s'exprimer sur des sujets d'actualité, non seulement internationaux, parce que à l'époque, on se concentrait beaucoup plus sur tout ce qui est international. Et maintenant, non. L'actualité nationale, elle est très importante. Elle est plus importante même que tout ce qui est international pour nous. Et puis, il y a toujours de l'actualité maintenant en Tunisie. Hein.
Et les étudiants qui souhaitent faire du journalisme, dans quel état d'esprit arrivent-ils dans votre université ?
Certainement, si on n'aime pas le journalisme, on sera pas prêt pour faire le journalisme. C'est-à-dire, on peut avoir la moyenne, une très bonne moyenne qui nous permet d'avoir accès à l'école du journalisme. Mais réellement, si on n'aime pas exercer le métier, on ne rêve pas de devenir grand animateur ou un grand journaliste ou un grand correspondant de guerre. Actuellement, c'est ce que les étudiants rêvent de devenir dans les zones de conflit, tout ça, en Syrie, en Libye, voilà. Donc, si on n'a pas ce rêve, on ne pourra pas réellement exercer le métier de journaliste, parce que le métier de journaliste, c'est avant d'être donc un métier, c'est un rêve à réaliser, et que il faut qu'il y ait des compétences nécessaires. Par exemple, maîtriser les langues, parce qu'en Tunisie, par exemple, la première langue, c'est la langue arabe, mais en même temps, il y a le français, il y a l'anglais, c'est à développer donc au fil des années pour que le journaliste puisse développer après sa carrière professionnelle, étant donné qu'on est ouvert, donc on reçoit des invités de l'étranger, tout ça. Donc l'arabe, qu'on veut ou pas, c'est pas la première langue qui à l'international, mais en même temps, donc on a des journaux, on a des médias en langue arabe, mais on a aussi donc des journaux en français. Donc mis à part ça, donc avec le développement, l'évolution technologique et les compétences technologiques qui sont très importantes aujourd'hui, donc déjà quand il arrive l'étudiant où l'apprenti arrive au bac, déjà il a des compétences développées en technologie, parce qu'il avait un cours d'informatique, et puis la politique générale du pays, donc elle encourage à la présence d'un ordinateur, ou c'est d'une manière générale, parce que tout dépend des moyens du foyer, de chaque foyer. Donc la présence des ordinateurs, le cours d'informatique, déjà quand on arrive à l'université, on a ces compétences basiques. Et puis après, on devrait avoir un cours d'informatique, et mis à part ça, dans le cadre d'ateliers donc de presse électronique ou n'importe quel atelier aujourd'hui, parce que la télé, elle est présente aujourd'hui sur le web, il n'y a plus de télé juste classique, ou la radio, le contenu est présent sur le web. Donc voilà, donc ça nous permet de développer les pratiques technologiques médiatiques des étudiants en même temps.
Et justement, ces étudiants ont-ils envie de travailler sur Internet, d'être des journalistes web? Est-ce que c'est la voie de destination majeure des étudiants qui sortent de votre école?
À l'époque, quand on parlait de la presse électronique, on se limitait à tout ce qui est écrit, c'est-à-dire rédiger un article. Dans la majorité des classes du journalisme, réellement, les étudiants n'aiment pas écrire, alors que réellement, on écrit pour la radio, on écrit pour la télé. Mais aujourd'hui, quand on fait la radio et la télé, on parle aussi du cross-média et du transmédia. Il y a présence de contenu sur différents supports. Le journaliste aujourd'hui, il sait bien que le jour où il va présenter une émission, il sera présent sur le web, même on fait un Facebook Live ou autre, et on va présenter le contenu sur le site. Donc, on essaie de créer ou de former des étudiants polyvalents, et ce qui réellement encourage ces étudiants à être beaucoup plus assidus pendant le cours ou l'atelier de presse électronique. Parce qu'on apprend aux étudiants déjà que le storytelling, le transmedia, tout ça, donc ce sont des choses très importantes pour vous. Et donc ils développent des compétences, mis à part les autres ateliers, donc télé ou autre, ils développent des compétences technologiques en parallèle.
Au cours de ce rassemblement de formations d'écoles de journalisme, d'universités qui forment au journalisme, vous intervenez notamment sur le data journalisme dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les pays qui sont en pointe sur le data journalisme dans le monde arabe?
Alors tout simplement, moi je fais partie des Tunisiens, des journalistes tunisiens, parce que en parallèle, j'ai démarré ma carrière non seulement enseignante, mais j'étais journaliste. Donc je suis parmi les journalistes qui ont profité en 2013 de la première formation de data journalisme en Tunisie. Et donc, mais vu que j'ai eu mon bac maths, donc j'ai des compétences. Tout ce qui est donc utilisation des données, extraction de données et autres, plus développé qu'un journaliste littéraire. Et je me suis trouvée intéressée par ce nouveau format de journalisme, étant donné que les gens aujourd'hui, les lecteurs d'une manière générale ou les téléspectateurs, ils en ont marre de regarder juste la télé et d'entendre parler pas mal de choses, et sinon lire un long article. Donc ils préfèrent avoir des données présentées d'une manière plus clair, plus lisible, sous forme de graphes ou sous forme d'infographie ou autre. Et le cours de data journalisme, après, dans les écoles du journalisme, il a été intégré dans des cours de presse électronique. C'est comme une section réellement. Ça, c'était au départ. Et en 2018, j'étais contactée par un collègue, Amr Al-Ayraq, qui est président actuellement, on a lancé déjà, qui est directeur exécutif d'InfoTabs, le premier projet basé sur le data journalisme dans le monde arabe. En Égypte déjà, ils ont réussi l'année dernière le concours international GEN qui a eu lieu à Lisbonne. Ils ont eu un prix international. Du coup, on a lancé en 2018 à l'Université américaine du Caire le réseau des journalistes de données arabes. Et c'était une première expérience dans le monde arabe pour rassembler les journalistes qui travaillent sur cette thématique. Et de mon côté, en tant que membre du board, du comité, mon rôle, c'est promouvoir le data journalisme en tant que matière, en tant que culture, dans les universités arabes. Donc j'étais en contact avec les universités afin de promouvoir cette culture, parce qu'on donne des formations à des journalistes, mais en même temps à des enseignants universitaires pour qu'ils développent leurs pratiques. Pour être bref, donc l'expérience de l'enseignement du journalisme de données n'est pas assez développée comme dans des pays européens et surtout les pays anglophones. Cependant, quand même, on a quelques expériences enregistrées qui sont développées. Par exemple, au Maroc, à l'Institut LESIC, c'est l'institut de communication, parce qu'on n'a pas de différence entre journalisme et communication réellement dans le monde arabe. On fait pas de la séparation. C'est dans la même école qu'on enseigne les deux. Donc dans cette école-là, on a intégré tout un cours, c'est-à-dire un cours à part entière qui s'appelle journalisme de données. Prochainement, par exemple, à l'université libanaise, ils vont lancer un programme de journalisme de données, et c'est un programme en collaboration avec une boîte à part entière, en fait externe, à Data Aurora, qui travaille sur la promotion du journalisme de données. Donc ils ont créé un curriculum bien précis, bien déterminé, bien défini avec les enseignants, parce qu'en même temps ils ont formé les enseignants. On n'a pas assez d'enseignants qui forment au data journalisme. Et à part ça, dans le monde arabe, on a un problème, parce qu'avant de passer déjà à la visualisation des informations, à la présentation visuelle des informations, on a ce problème d'accès à l'information. Si on regarde donc le contexte général du pays du monde arabe, il n'y en a que 4 ou 5 pays qui ont déjà une loi qui traite la question de l'accès à l'information. J'ai de la chance d'être en Tunisie parce que notre expérience, elle est prometteuse et donc beaucoup de pays nous contactent réellement pour avoir donc ce modèle de loi chez eux. Donc on encourage l'accès à l'information. Mais en même temps, si on encourage l'accès à l'information, on va limiter d'une autre façon, d'une autre manière. Donc ce règlement déjà législatif est très important avant de passer à la promotion du journalisme de données. Et à partir du moment on est à la fac, on apprend aux étudiants, si vous n'avez pas accès à l'information, vous devrez changer de sujet. Vous devrez trouver un autre angle pour traiter votre sujet afin d'avoir accès aux informations nécessaires. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur un sujet là où il n'y a pas de données. Et donc nous, on a mis en place, par exemple, en Tunisie, on a l'instance nationale donc, de l'accès à l'information, mais en même temps, on a l'instance nationale de protection de données. C'est contradictoire, entre autres. Vous voyez ? Donc on travaille beaucoup sur ça avec le OpenGov, vous savez c'est un projet international, donc on essaie de développer avec les collègues cette expérience. Et à partir du moment où on arrive donc à l'enseignement du data journalisme, on a un manque d'enseignants de data journalisme. C'est-à-dire si je vais lancer un cours de journalisme de données, je devrais trouver un prof qui enseigne ou beaucoup, parce que tout dépend du nombre de groupes d'étudiants. Donc à part ça, est-ce que les étudiants de licence, ils sont prêts ou ils ont les compétences nécessaires pour avoir un cours de data journalisme? Par exemple, à l'USIC, c'était destiné aux étudiants de master, parce qu'ils ont des compétences plus développées. Et puis, quand on fait des formations en journalisme avec des organisations internationales, les journalistes, ils savent déjà, en fait, comment choisir le sujet, trouver l'angle, trouver les sources d'informations. Donc, ils ont des compétences plus développées. Ce qu'on préfère destiner, c'est que la formation ou le cours de data journalisme soit destiné aux étudiants en master, ou sinon qu'il soit un diplôme à part entière.
Vos étudiants qui sont formés donc au journalisme et à la communication, où travaillent-ils en sortant ? Est-ce principalement vers le journalisme ou vers la communication ? Et deuxième question, est-ce que l'idée c'est aussi qu'ils puissent rayonner et aller travailler ailleurs dans le monde arabe ou peut-être même ailleurs sur le continent africain, voire en Europe ?
Alors, pour nos étudiants, tout simplement, donc si on sait bien qu'avec la communication, on gagne beaucoup plus d'argent qu'être journaliste. Donc on dit bien, si vous aimez le journalisme, vous exercez le métier, vous avez à accepter la situation. Parce que la situation, c'est une situation internationale du journalisme. On est mal payé, c'est une condition de vie internationale qui se développe avec le temps. Mais si on veut gagner de l'argent, on va virer vers la communication. Mais on va utiliser le journalisme au profit de la communication. Donc déjà, ils ont les compétences nécessaires en matière de journalisme, des reportages ou autre, mais pour un autre objectif. Sinon, quand on est journaliste, on peut travailler en Tunisie, mais en même temps, on peut aller ailleurs. J'ai des étudiants actuellement, pour mon université, je parle de mon cas, qui déjà, en fait, à Euronews, il y en a d'autres, ici, le bureau d'Euronews à Lyon, donc il y en a certains. Il y en a un déjà que je connais. Il y a déjà Al Jazeera, il y en a un qui travaille à Bainsport, donc ils partent un peu partout dans le monde. Et sinon, parce que mon université elle appartient à un réseau panafricain, donc il y en a ceux qui ont terminé leurs études en France, et puis à partir, par exemple, j'en ai une qui a fait son master à l'école de journalisme de Lille, et après elle est partie pour un stage à France Télévisions, et puis elle est revenue au Gabon à travailler avec une chaîne Africa 24. Du coup, les expériences sont différentes d'un étudiant à un autre. L'étudiant, donc, pour rester en Tunisie, commencer en Tunisie sa carrière et puis il rêve de partir à l'international. Parce que généralement, les étudiants, en fait, quand tu fais du journalisme et que tu es quelqu'un très ambitieux, tu ne vas pas te limiter à ton terrain, tu ne vas pas rester en Tunisie toute ta vie, tu chercheras à aller à l'étranger, faire une autre expérience et puis peut-être à partir à l'étranger, passer, une année en France et puis partir en Italie. Surtout que, je le dis carrément et franchement, c'était toujours le cas des Tunisiens d'une manière générale, on a tendance à apprendre les langues facilement. C'est-à-dire il y a des Tunisiens donc qui parce que on apprend l'italien, l'espagnol, l'allemand, c'est une matière optionnelle, c'est comme la quatrième langue mise à part l'anglais. Donc on l'apprend déjà avant le bac. Du coup, quand il sera présent sur place, il va développer donc la maîtrise du langage, il va apprendre la langue. Donc du coup, il sera pas limité à un terrain tunisien. Il y en a certains étudiants par exemple qui préfèrent aller en Libye ou en Syrie. Ils veulent devenir des correspondants de guerre. Moi, j'ai pas vu encore un cas pareil, mais il y en a ceux qui, je me rappelle une copine, en fait, une, elle porte le hijab déjà, pour ne pas donner de préjugés, et ben elle veut devenir une photographe de guerre. Elle veut partir donc dans ces zones de conflit et prendre des photos et gagner une photo internationale lors d'une, je sais pas, d'un concours de l'UNESCO. Tout ça, c'est un étudiant ambitieux qui veut aller très loin. Il y en a certains qui restent en Tunisie, ils finissent par avoir une carrière en Tunisie, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a de l'actualité actuellement en Tunisie. La Tunisie avant 2001, c'est pas la Tunisie après 2001, parce que ça bouge beaucoup. Il y a toujours de l'actualité. À l'époque, c'était stable, il y avait rien en fait comme actualité. Et puis puisque le contexte politique ne le permettait pas d'avoir toutes les nouvelles à propos de la Tunisie, on regardait ça sur les chaînes étrangères et qui travaillaient d'une manière illégale parfois, c'est-à-dire pour la Tunisie, ils passent des informations, on ne sait pas qu'il y a un correspondant pour cette chaîne-là en Tunisie. Alors que non, actuellement, il y a des Al Jazeera, elle a son bureau en Tunisie, par exemple. France 24, donc pareil, elle envoie ses correspondants en Tunisie à maintes reprises quand il y a un événement important. RFI, pareil, ils sont présents avec nous, donc quand il y a les élections ou autres les événements importants. Donc les chaînes étrangères, ils sont là. Et parfois, c'est une occasion qui permet aux étudiants en journalisme ou diplômés en journalisme de travailler avec ces chaînes-là pour acquérir une expérience donc internationale et avoir une idée sur le fonctionnement des médias à l'étranger. Parce que ça diffère. La ligne éditoriale de chaque média diffère d'une autre. Et puis, la façon, c'est parce que, par exemple, la France ne regarde pas l'actualité de la même façon que l'Allemagne ou autre. Tout dépend de l'agenda politique, des intérêts. En fait, c'est toute une ligne éditoriale qui est liée. Donc, chaque étudiant, il a sa propre carrière à lui. Et on encourage les étudiants à partir à l'étranger réellement pour acquérir de l'expérience. On encourage nos étudiants à être présents dans des chaînes étrangères. Parce qu'après tout, on va dire, c'était notre étudiant, qu'on le veut ou pas. J'ai une étudiante actuellement, elle a commencé l'année dernière avec TRT en langue arabe, la chaîne turque en langue arabe. Bah, quand je la regarde, donc je dis son étudiante. D'ailleurs, hier, on avait malheureusement, j'ai pas pu assister à la fête de remise du diplôme. Et donc, on a remis des trophées de récompense aux alumni. Les gens qui ont fait donc des journalistes, bon, différentes disciplines, y compris donc les étudiants diplômés en journalisme, et qui se sont donc intégrés dans des médias étrangers ou en Tunisie. Ça dépend dans des postes, donc des bonnes positions. Donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Hein.
Vous venez d'entendre Noura Belaïd, directrice des études de l'Université centrale de Tunis. Elle intervenait au Congrès mondial de l'enseignement du journalisme à Paris cette semaine. Avant de se quitter, je vous rappelle que Mondoblog, notre réseau de blogueurs francophones, commente assidûment la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Rendez-vous sur le site cannes2019.mondoblog.org. C'est tout pour l'atelier des médias cette semaine. Simon Decreuse était à la réalisation, Steven Jambot au micro. L'adresse pour nous écrire n'a pas changé, c'est atelier@rfi.fr. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner à notre podcast pour écouter en version longue l'atelier des médias.